Et merde, je vous dis tout. La marque Adam et Ève, sensuelle et amusante, est mon sponsor du moment. Et je vais paraître kitsch parce que j'ai un mec et j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. En fait, je vois un peu ça comme l'occasion de se la jouer romantique, dentelle avec des fleurs, lingerie, me faire jouir. Adam et Ève m'a offert le parfait combo pour ça. Une robe ouverte avec longue fente au niveau des jambes, en lingerie noire transparente, idéal pour se sentir désiré, avec un vibromasseur parfait pour les couples. À stimulation interne et externe, peut être contrôlé dans le monde entier avec l'application WeConnect. Tu peux en profiter toi aussi grâce à mon code promo VALCOLETTE, comme Valentin et Colette, en très diminué, VALCOLETTE. Ça te donne 15€ de réduction des 60€ d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite, bisous!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Salut, c'est Colette. Et je suis aujourd'hui avec Margot. Margot Théroux, sexologue clinicienne, féministe, qui lutte contre les violences. Les violences, comme on dit, violences contre l'argent. J'ai vulgarisé ça. Donc Margot Théroux qui lutte contre les violences économiques. Ça veut dire quoi au juste, Margot ?
Bonjour Colette. Les violences économiques, ça fait partie des 6 violences qui sont définies par l'État comme étant toute forme d'emprise directe ou indirecte liée à l'argent d'un partenaire sur l'autre. Donc par exemple, empêcher de travailler, c'est une violence. Ne pas payer les pensions alimentaires, c'est une violence. Demander à vérifier les comptes de son ou sa partenaire, c'est une violence économique, notamment.
Très bien. Ça en dit long, ça en dit large. Je suis super contente de faire cet épisode avec toi, pour plein de raisons que je vais raconter un petit peu après. Mais c'est très, très, très chouette.
Bah, merci pour l'invitation, je suis très heureuse d'être là.
Trop cool. Et bah, c'est parti. Salut Margot, bah du coup, ouais, je suis super contente de faire cet épisode. Pourquoi ? Pour pas mal de raisons. Déjà, la première, c'est qu'il s'avère que Margot et moi, on se connaît déjà, mais d'il y a très 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 longtemps. On était au collège ensemble, un collège justement où l'argent, c'est un peu un sujet quand même.
Un peu trop.
Ouais. Et alors c'est très drôle parce que je pense que toutes les deux, à la fois, on a le même background, du coup on a été... dans cette même école, et à la fois, je pense qu'on n'a pas été forcément éduqués de la même manière vis-à-vis de l'argent, et ce qui est très drôle, c'est qu'on n'a vraiment pas évolué non plus de la même manière. Toi, t'as plutôt évolué dans la finance et l'économie, et moi dans un côté très artiste, et donc très loin, j'ai fui tout ce qui semblait à l'argent. Et il s'avère en fait que dans ma newsletter, il y a pas si longtemps, j'ai parlé d'argent à ma communauté et en fait, maintenant, je parle d'argent dans mes newsletters parce que c'est un sujet qui me touche énormément à titre perso. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu avais une newsletter, donc je vais aller m'abonner parce que je pense que ça peut beaucoup m'intéresser.
Ouais, elle s'appelle Couple et l'argent, aussi simplement que ça, et où je donne des conseils sur l'argent et sur le couple.
Bah, c'est parfait.
On adore. Simple et efficace. Merci. Au revoir.
Et oui, donc je disais que j'avais un énorme souci de rapport avec l'argent et que ça va plus, quoi. Donc, ce que j'entends par là, c'est que, je vais vraiment me dévoiler dans cet épisode, hein. Donc c'est assez, ça va être assez perso. Je vais en dire sur moi. Vous allez en apprendre pas mal sur moi. Margot, tu vas tout savoir.
Eh ben, écoute, le titre de ton podcast n'aura pas été plus juste. J'attends tes confessions.
Ouais, j'ai tendance à me sous-évaluer, à vendre en dessous de mes prix, à ne pas donner le juste tarif. En fait, j'ai tellement envie de faire les choses, j'aime tellement donner, j'aime tellement être. Mais sauf que il y a un moment donné, ça va plus parce que du coup, où est la forme du respect pour soi? Et ça, c'est un peu le chemin que je suis en train de faire en ce moment, en me disant mais en fait, meuf, mais genre, tu te respectes pas, quoi.
Enfin.
Oh, sois pas dur avec toi-même.
Ouais, non, mais je suis un peu dure avec moi-même. Mais en même temps, c'est un peu vrai quelque part.
Ouais, 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 ouais. Non, c'est vrai que nous, les femmes, et je m'inclus dedans, hein, on a vraiment beaucoup de mal à parler d'argent, en fait. À utiliser un symbole qui est plutôt à la base masculin pour se l'approprier à soi.
Ouais. Et alors après, bon, on pourrait faire toute une thèse autour de ça, d'où ça vient de... Mais bon, je pense que c'est pas non plus le sujet aujourd'hui, parce qu'en réalité, il y a pas mal de ressources si on veut vraiment aller creuser sur un aspect sociétal ou rapport de pouvoir. Chose qu'on va quand même aborder aujourd'hui, mais c'est vrai que si vous l'avez peut-être en détail, est-ce qu'il y a peut-être un livre en particulier que tu voudrais mentionner d'ailleurs, pour ceux ou celles qui veulent vraiment creuser ce sujet-là ?
Alors, plus sur le plan pratique ou sur le plan sociétal ?
Les deux.
Les deux. Alors, il y a deux livres sur le plan pratique qui sont sortis récemment parce que c'est vraiment une question sur la question des femmes et de l'argent et de l'investissement. Il y en a un, c'est Aux Thunes Citoyennes, qui a été écrit par INSAF de Ma Juste Valeur et d'Héloïse Boyle de Oseille et Compagnie, qui ont écrit ce livre qui est sorti en début janvier. Il y en a un autre qui a été écrit par Melvin et Hélène Garbi de Femka. Femka, c'est une plateforme d'investissement qui aide les femmes à prendre le pouvoir sur l'argent et à investir.
Ok, génial.
Ouais, et qui s'appelle Prenez le pouvoir sur l'argent, sur l'investissement. Donc ça, c'est vraiment des livres très concrets avec des exercices qui mélangent aussi un peu la théorie et la pratique pour faire en sorte de péter ces barrières que l'on a et oser et agir.
Waouh, trop bien, génial.
Ouais, je vais leur demander une petite comme là pour leur pub que je viens de leur faire. Faut pas déconner.
Parce que ils seront contents puisque tu prendras de l'argent, ils seront fiers de toi.
Voilà, c'est ça. T'es la fille, elle demande de l'argent pour mettre en avant des livres qui parlent d'argent. C'est Inception le truc.
Et t'es venue avec un livre aujourd'hui. Je t'ai demandé de venir avec un petit livre parce que je voulais justement introduire cet épisode pour essayer de vulgariser au maximum en fait ce dont on va parler aujourd'hui. Et tu m'as amené un livre qui s'appelle L'argent dans le couple, et tu m'as dit que c'était un peu le livre ref.
Ouais.
C'est ça. Donc de Bernard Prieur et Sophie Guillou. Tiens, je montre la couverture à la caméra. J'ai l'impression d'être dans le téléachat. Hop. Alors voici L'argent dans le couple. Tintintintin. C'est quoi la musique déjà de téléachat ?
Je sais pas, j'ai jamais regardé ça.
Téléshopping. Peut-on s'aimer sans compter ?
J'adore la baseline.
Et c'est vrai que le petit paragraphe que tu m'as fait lire, il est très chouette, donc je vais le lire de ce pas. D'emblée, une question se pose. Peut-on s'aimer sans compter ? Aux yeux de beaucoup, non seulement on peut, mais on doit le faire. Tant est forte cette idée que l'argent ne fait pas bon ménage avec les sentiments. Pourtant, dans la réalité, tous les couples comptent. Leurs sous, mais aussi leur temps. Leurs dons, leurs marques de tendresse. Peut-être alors serait-il judicieux de sortir de cette vieille opposition entre aimer et compter, pour tenter de voir si ces deux verbes ne sont pas au fond plus complémentaires qu'antagonistes. Encore faut-il comprendre ce qui est vraiment en jeu. Car l'argent, instrument de mesure, peut être monnaie d'échange comme outil d'oppression. Acteur de la vie sociale, il s'invite aussi dans les transactions intimes. Bref, derrière son apparente neutralité et sa froideur arithmétique, il cache tout le contraire, l'irrationnel et la passion, la subjectivité et l'affectif. Décrypter ce qu'il raconte de chacun de nous et de notre relation de couple revient toujours à s'interroger sur le sens qu'on lui donne et la fonction qu'on est prêt à lui accorder. Or, la manière de considérer l'argent est traversée par toutes les lignes de fracture qui peuvent opposer des individus. Parler argent à deux implique nécessairement de se frotter à ce que l'altérité a de fécond, mais aussi d'irritant et d'inconfortable. Ça ouvre beaucoup de portes. C'est chouette.
Il faut savoir que ce livre, je crois qu'il a été écrit en 2006 ou en 2008.
Ok.
Et donc on parle de 15 ans. Et en fait, ça a été un des tout premiers, sauf que Bernard Prieur et Nicole Prieur, ils sont thérapeutes de couple. Donc en fait, ce livre, ça a été effectivement la première pierre sur tout ce qui a pu suivre en termes de travaux. Et c'est vrai que, même quand bien même je sois très féministe et j'aurais pu effectivement apporter Titu Lecoq, qui a fait un livre qui est sorti sur le couple et l'argent, celui-là, il me paraissait essentiel parce qu'il apporte une dimension vraiment sexologique, enfin plus thérapeutique, mais une vision plutôt psychique du couple et l'argent et de ce que ça dit de nous.
Ouais, ça me parle énormément, surtout ce passage où c'est écrit on compte tout le temps, on compte combien on se donne, on compte combien de temps on passe ensemble, on compte l'affection. Donc finalement, pourquoi est-ce que l'argent est si un souci alors qu'en fait, on est toujours un peu en train de peser le donnant-donnant dans un couple?
Ouais. Bah, le pire, et là tu le vois bien, c'est dans les divorces. En fait, dans les divorces, c'est comme si cette espèce de drap lumineux qui était là et qui cachait tout ça. Et en fait, on voit la réalité et on va compter. On va compter qui a acheté le grille-pain il y a 15 ans. On va compter combien de temps on a passé à faire ceci, qui a acheté ça, etc. En fait, tu comptes tout dans un divorce. Donc, si les comptes sont déjà là, c'est que inconsciemment dans la relation, ils le sont aussi.
Et est-ce que ça ne réveille pas là un énorme point de douleur quand on est au point de compter?
Je pense, ouais. Comme il le dit très bien, à partir du moment où tu te mets à compter, tu n'es plus dans un rapport finalement de partage, parce que l'amour, le couple, c'est du partage, mais tu tombes dans un truc où tu es dans une forme d'individualité et tu vas protéger littéralement tes intérêts, au sens propre comme au sens figuré. Donc, compter dans une relation, tu vois, généralement, quand tu as des disputes, et c'est tout souvent à ce moment-là où ça éclate, tu sais, où tu as quelqu'un qui va reprocher à l'autre, « Non, mais de toute façon, ici, j'en fais plus que toi » ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est là, au fait, où ça sort. Ça sort que dans les moments de crise. Parce qu'on estime qu'on est perdant.
Moi, ça me fait penser à quand on avait parlé au téléphone, quand on s'était re-rencontré de vive voix. Parce qu'à ce moment-là, tu ne savais pas qu'on se connaissait.
Pas du tout. Quelle surprise.
Tu m'avais un peu raconté le fait que tu étais... Je peux en parler, que tu étais mariée.
Oui. Voilà.
Et on avait abordé toute la question autour du contrat de mariage.
Oui.
Et est-ce que tu veux bien qu'on reparle de ça et me dire surtout, enfin, j'avais adoré quand tu m'avais parlé de tes amis qui s'étaient confiés à toi sur leur rapport au contrat de mariage et pourquoi est-ce qu'elles n'étaient pas forcément pour.
Ah oui. Alors petite exclusivité pour toi puisque je ne parle jamais de ma vie intime. J'aime bien laisser le doute. Beaucoup pensent que je suis lesbienne, voire bi, enfin bref.
Tout est possible à ce micro, sache-le.
Oui, bah, je n'en doute pas. Donc, je suis mariée avec un homme. Et lui comme moi, ayant conscience des risques que peut comporter la vie à deux, notamment qu'un couple sur deux se sépare, on a décidé pour se marier de faire un contrat de mariage. Donc, c'était il y a quelques années. Maintenant, ça fait plusieurs années que nous sommes mariés. Et tout comme des sachants dans ce monde du mariage, un soir... ayant bu un petit peu, juste ce qu'il faut. On a des amis qui vont se marier et qui nous posent beaucoup de questions sur l'organisation du mariage, sur comment ça se passe, et nous, très heureux de transmettre notre savoir, on en parle. Et puis, à un moment donné, vient la question du mariage civil et donc de ce que l'on a choisi. Alors déjà, j'ai créé un premier débat en décidant de garder mon nom de famille. Mais en fait, j'ai la chance d'être avec quelqu'un d'extrêmement féministe et donc en fait, il ne comprend toujours pas pourquoi une femme devrait abandonner son nom. Enfin, la logique ne suit pas et tant mieux parce que chez moi non plus. Bref, premier débat, donc là déjà, on était un peu chaud. Et deuxième débat vient la question du contrat de mariage. Et là, en fait, ce couple d'amis nous demande sous quel contrat on s'est marié et nous, on leur a dit tout bonnement, bah, en fait, on a fait un contrat de mariage. Donc, c'est-à-dire que ce qui est à lui est à lui, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à nous en commun, c'est 50-50. Mais si jamais un jour, parce que c'est une réalité, hein, un couple sur deux se sépare sur Paris et un sur trois de manière générale en France, on se sépare, bah, on partira chacun avec ses grille-pains et ça sera très bien. Et là, un blanc se fait dans la conversation, pourtant on est en soirée. Hein. Et la personne, je me souviendrai de mon ami, en plus je l'adore, je l'aime d'amour cette amie, hein. Elle me regarde... effarée, comme si j'avais écartelé un chaton, et elle me dit « Non mais Margot, moi je ne pourrais pas faire de contrat de mariage, j'aime trop. » Et enfin, elle me dit « Je l'aime trop » en me disant le prénom de son petit ami qu'on va appeler Charles ici. Elle me fait « Non mais moi je peux pas, j'aime trop Charles, je peux pas faire de contrat de mariage. » Et là, tu vois, j'ai encore même en fait d'en parler aujourd'hui, je suis encore stupéfaite parce que je réfléchis. Je regarde mon mec, on se regarde, on comprend pas. Et je lui dis, bah, comment ça, enfin, c'est quoi le rapport, en fait? Elle me fait, mais non, mais si tu parles de contrat, ça veut dire que tu penses à la séparation. Je pense que pour moi, quand on se marie pour toute la vie. Donc, pourquoi anticiper quelque chose pourquoi anticiper quelque chose de toute façon qui ne va pas se produire. Mais tu sais, enfin moi je suis sexologue, je fais des thérapies de couple de temps en temps, je lui dis tu sais, enfin OK, là on est jeune, on a 30 ans, tout va bien, mais tu sais pas la vie, tu sais pas, tu peux faire une rencontre, enfin on n'en sait rien. Et quand bien même t'aimes ton ou ta partenaire du plus profond de ta chair, enfin c'est pas possible quoi. Eh ben non. Toujours pas. Elle m'a dit non, et résultat des courses, parce que quand tu te maries à la mairie, ils te disent sous quel contrat tu te maries. Ils te disent monsieur, madame ou monsieur, on choisit le régime d'eux pour le mariage. Et bien eux, ils se sont mariés sous le régime de la communauté, donc tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi.
Et l'autre régime, ça s'appelle comment ?
Donc tu as trois régimes, tu as le régime de la communauté, donc en fait on partage tout, tu as le régime de la communauté réduite aux acquis, où en fait le passif reste, en gros, tout ce que tu as touché avant, ça t'appartient, et en fait il n'y a que la vie à deux, à partir du moment où il y a le mariage, où ça appartient aux deux. Mais si par exemple tu t'es acheté un appartement avant de te marier, ben, en fait ça ne rentre pas dans le bien commun. Et ensuite le troisième c'est séparation de biens. Donc en fait ce qui est à moi, et ce qui est à mon ou ma partenaire et lui appartient.
Ok, et si on achète un truc ensemble, c'est 50-50 ou c'est quoi ?
Alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais en fait, quand tu es chez le notaire et que tu achètes un bien, l'argent que tu vas mettre ne va pas déterminer la part. C'est-à-dire que par exemple, monsieur, madame ou madame, enfin peu importe, un des deux partenaires peut acheter l'appartement à 100%, mais chez le notaire, vous pouvez marquer que vous l'achetez à 50%. Donc tu vois ? C'est-à-dire que si par exemple... ton ou ta partenaire met tout l'argent sur la table pour acheter un appartement, chez le notaire, vous pouvez décider que contractuellement, en fait, ça apparaît comme 50-50. Il n'y a pas de corrélation entre l'argent que tu mets et le contrat que tu signes chez le notaire.
D'accord, ok. Donc en fait, tout se fait chez le notaire, en fait.
Ouais.
Ok.
C'est-à-dire que, en fait, le notaire, ce qui l'intéresse, c'est juste qu'il y ait l'argent sur le compte. Après, dans le contrat, enfin... tu vois, même à titre personnel, quand nous, on a acheté notre appartement avec mon mari, on n'était pas mariés à ce moment-là, il a mis un peu plus que moi en termes d'apport, mais par contre, dans le contrat, c'est marqué 50-50.
Mmh. Ok.
Et ça, il faut le savoir.
Et alors, attends, on va revenir là-dessus.
Ouais.
Juste après, j'avais une petite question pour finir avec ton ami.
Oui, on est toujours amis.
Ok, déjà, c'est une bonne nouvelle, je suis contente pour vous. Pourquoi elle a fait ça, à ton avis ? Qu'est-ce qui l'a poussé à...
Tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je me rends compte que tout ce qui touche à l'intime, avec un grand I, l'argent, la sexualité, l'amour, les gens, en fait, quand tu leur dis des choses qui vont contre leurs idéaux, contre leurs valeurs, entre guillemets, ils ont besoin de cette réassurance et ils ont vraiment besoin de cette confrontation, tu vois. Il y a vraiment cet effet miroir qui est très, très fort. Parce qu'en fait, ça vient toucher à quelque chose de leur histoire, de leur héritage, mais leur héritage financier, émotionnel, tu vois. Qu'est-ce que ça vient de dire de toi ? Moi, j'aime bien cette phrase, et je l'utilise très souvent en thérapie. Quand on menace, c'est qu'on sent menacé. Elle m'a pas menacée en tant que telle, mais elle m'a dit cette phrase qui aurait pu être très violente, de me dire, non mais ça veut dire... Enfin, elle m'a sous-entendu que je n'aimais pas assez mon mari, et c'est pour cette raison-là qu'on a fait un contrat de mariage, tu vois. Et je pense que quand on a une identité qui est... Alors ça, c'est la sexologue qui te parle, mais quand il y a des fêlures dans ton identité, t'as besoin de la surcompenser en la surjouant, tu vois. On dit très classiquement, les gens qui manquent de confiance en eux, ils vont faire beaucoup rire. Bah là, en fait, il y avait quelque chose qui avait besoin de... Elle avait besoin de s'affirmer, et ça touchait trop à ses valeurs, à sa vision du monde, et c'était beaucoup trop violent pour elle qu'avec mon mari, on ait décidé de faire un contrat de mariage. Alors qu'en soi, on s'en fout. Enfin, c'est pas elle qui est mariée avec lui, tu vois.
Ouais, mais pourquoi avoir décidé d'avoir fait un contrat de communauté ? Elle aurait pu...
Pourquoi elle a décidé de faire mise à... la communauté de biens, le régime classique.
Ok, merci, j'avais pas le bon terme.
Non, t'inquiète. parce que c'est la forme la plus choisie en France, en fait. En fait, c'est le régime automatique. C'est-à-dire que si tu ne décides pas d'aller chez le notaire, c'est le truc qui va être mis automatiquement.
Ah, t'es pas obligée d'aller chez le notaire ?
Non,
mais attends, désolée, je découvre un monde, moi.
Non, mais t'inquiète.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc en fait, automatiquement, on va dire, c'est le format qui est classique. Alors attention, à la base, ça a été fait ça. Pourquoi ? Et ça, je trouve ça très bien, il faut le dire. C'est qu'il fut un temps, les femmes ne travaillaient pas, pas autant que maintenant. Et ce système-là a été mis en place pour que lorsqu'il y a une séparation et que madame n'ait pas travaillé, elle puisse repartir avec quelque chose. Tu vois ? C'est-à-dire, et ça, il faut le dire, parce que ce n'est pas des discours qu'on entend très souvent, l'État français a considéré, les femmes ne travaillant pas, on va mettre en place un truc, ce qui fait que s'il y a une séparation, elle repartira avec quelque chose.
Oui.
Voilà.
OK.
Et c'est pour ça, en fait, à la base, que ça a été fait. D'ailleurs, quand j'en ai parlé avec mon notaire, la première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que vous travaillez ?» Et ensuite, il m'a dit « Est-ce que vous comptez vous arrêter de travailler ?» Et je lui ai dit « Non, pas du tout. » Et donc, en fait, c'est à ce moment-là, il m'a dit « Ok, très bien, donc le régime de la séparation de biens, c'est ce qu'il y a pour vous. » Il m'a dit « Mais si jamais un jour vous souhaitez arrêter de travailler, ou vous ne travaillez plus avec la retraite, il m'a dit « Ça sera intéressant pour vous de rechanger de contrat de mariage et de passer sous le régime de la communauté, enfin classique. »
Donc on peut changer de contrat de mariage.
Tout à fait, au cours de sa vie, ouais.
Ok.
Et nous, il nous l'a conseillé de le faire avant la retraite.
Intéressant.
Ouais.
D'accord, ok. Et ça se fait avec le notaire aussi.
Et ça se fait avec le notaire, ouais.
D'accord, ok. Donc le conseil du jour, c'est ayez un bon notaire.
Ouais, et puis surtout, en fait, intéressez-vous.
Pas trop vieux pour vous suivre toute la vie. C'est compliqué, hein.
C'est pas une profession très jeune, de manière générale. Non, mais c'est surtout, en fait, quand les personnes organisent un mariage, elles se concentrent très souvent sur le DJ, le buffet, ce genre de trucs. Intéressez-vous sérieusement au contrat de mariage. Et rappelez-vous cette statistique qu'un couple sur deux, voire un couple sur trois, se sépare. Et encore une fois, moi, ce que j'ai dit à mon ami, je lui ai dit, écoute, si jamais un jour ma relation vient à se terminer, en fait, j'ai pas envie de devoir gérer la charge mentale, administrative et financière.
Ouais, c'est ça.
J'ai pas envie de gérer ça, en fait. J'ai envie que j'aurais juste à faire mon deuil de ma relation, de mes projections, mais c'est tout. Et ça sera, c'est une sécurité. J'ai pas envie de... Enfin, il y a tellement de couples qui se déchirent. Tu vois, on parlait des violences économiques tout à l'heure. D'histoires d'argent qui reviennent et des machins qui n'ont pas été payés il y a 30 ans. Enfin, moi, c'est non, quoi. J'ai pas envie de m'occuper de ça si jamais un jour ça arrive.
Oui, parce que là, du coup, comme vous avez fait un contrat et que... Si j'ai bien compris, hein, tu me corriges, hein, bien sûr, si j'ai pas trop compris. Ouais. Mais le contrat que vous avez fait, en gros, l'argent que tu gagnes, il est à toi. L'argent qu'il gagne, c'est à lui. Et du coup, vous partagez rien ? Ou est-ce que vous partagez... Vous avez un compte commun ? Comment ça marche ?
On a un compte commun pour l'appartement.
OK.
Pour les charges fixes. Mais en fait, ce qui fait qu'il y a aussi cette idée de... Par exemple, si j'achète une table à 3 000 euros d'un artiste...
Tu peux dire balle, hein. Ouais. Tu peux dire chatte aussi. Ici, on dit tout, on dit tout.
Donc à 3 000 chattes. si j'achète une table à 3 000 euros, en fait, quand on se séparera, elle me reviendra.
D'accord, ok.
Ça rentrera pas dans... Alors là, on a un couple classique, au régime classique, je crois que c'est 70% des couples en France, ou un peu plus. Là où un couple sous le régime classique, en fait, ils vont devoir rentrer la table dans la liste de l'inventaire des choses à partager. Moi, la question, elle se posera pas.
Et... Ok, mais alors là, ça me fait penser quand même que encore aujourd'hui, il y a quand même plein de nanas, même si elles bossent, elles gagnent quand même vachement moins que leur mec, ou que leur mari, enfin bon, bref. Donc finalement, pourquoi est-ce que ce contrat-là est plus avantageux pour elles ? Pourquoi est-ce que c'est plus féministe de faire ce choix-là plutôt qu'un contrat sur les biens de la communauté ? J'ai dit ça bien ?
Ouais, sur la communauté.
Sur la communauté, merci.
Alors, je me suis jamais posé la question, mais je pense pas. Je pense que pour le coup, c'est vraiment propre à chacun. Il faut savoir aussi que mon mari et moi, on est tous les deux entrepreneurs, et qu'en fait, ce contrat-là, on l'a aussi choisi pour ça, dans le sens où, si jamais il a des problèmes avec sa boîte. Moi, j'ai des problèmes avec... je suis en profession libérale, mais... Si jamais il y a quoi que ce soit, j'ai des soucis de paiement, le contrat-là empêche que l'État prélève sur le couple. Vu qu'on est sur un contrat de séparation de biens, ils ne pourront prendre que sur mes parts à moi, et donc, du coup, le couple est protégé.
D'accord.
Et donc, c'est aussi une des... Si ce n'est la grosse raison pour laquelle on a choisi ça.
Ok.
Parce qu'en fait, c'est surtout au-delà de toutes les considérations militantes, c'est surtout hyper intéressant quand on est indépendante.
D'accord.
Parce que on ne sait pas la vie, et pour peu que sa boîte, il lui arrive un truc, que la mienne, il m'arrive un truc, s'il y a des dettes, en fait, les dettes, elles sont contractées à mon nom, et vu qu'on est en contrat de mariage, en fait, ils ne pourront pas toucher au bien du couple ou à ses biens à lui.
Ok.
Donc, par contre, effectivement, pour le côté féministe, alors je ne suis pas conseillère en gestion de patrimoine ni notaire, donc malheureusement, mes connaissances vont vite se retrouver limitées. Mais il faut vraiment faire du cas par cas. Je ne peux pas me permettre de faire un conseil, c'est trop risqué et trop dangereux. Mais en tout cas, il faut vraiment analyser, faire du cas par cas, se renseigner lorsqu'il y a un mariage pour savoir qu'est-ce qui nous protège en tant qu'individu. Et ça, c'est ce que nous, on a fait. Et effectivement, par rapport à ma situation professionnelle et celle et la sienne, le contrat, c'était aussi le plus intéressant.
Pourquoi parler d'argent casse le truc ?
Ok, sortez les stylos, on a 3 heures. Pourquoi parler d'argent casse le truc ? Ah là là. Alors attention, hein. Dissertation d'histoire, bonsoir. Je vais la faire très courte. La France, on est en France aujourd'hui. Enfin, on aurait pu être ailleurs, mais on est en France, en tout cas, toutes les deux.
Puis on se casse.
Ouais. Alors, en plus, je prends plus l'avion. Et en plus, tu vois, je suis une écolo, histoire vraiment de rajouter du...
J'allais te proposer Malte, mais du coup, j'annule.
Bah, train plus bateau éventuellement, mais pas n'importe quel bateau non plus. Enfin bref, c'est compliqué.
Plus Malte, je sens que les gens sont très écolo là-bas. Je pense que c'est la vibes.
J'ai vu des stories récemment sur Instagram de certains de mes amis. On sent qu'on est sur une dimension écologique très forte. Hein, les énormes lodges, la consommation à outrance. Bref, sujet. Alors, parler argent casse le truc parce que déjà, la France, fille aînée de l'Église. Et oui. Séparation de l'Église et de l'État en 1905. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 120 ans, plus ou moins. Et en plus de ça, fille aînée de l'Église, oui, mais Église catholique aussi. Donc, chez les chrétiens, plus particulièrement chez les catholiques, la question de l'argent est extrêmement taboue. On ne parle pas d'argent dans la religion.
On le donne.
Voilà, on le donne à l'église pour qu'ils construisent des églises. Mais il y a vraiment... Alors, j'avais des textes, mais là, je ne les ai plus. J'avais regardé beaucoup d'articles là-dessus sur le journal La Croix, où effectivement, en fait, l'argent, c'est bien, effectivement, comme tu dis, quand il est donné ou quand il est reçu, mais pas trop non plus. Donc, bref, on a grandi avec cette idée que l'argent, c'est tabou. Et donc, si tu regardes bien, dans les pays à tradition catholique, il y a un rapport à l'argent qui est beaucoup plus complexe que dans les pays à tradition ou à origine protestante. Mmh. En Angleterre, aux États-Unis.
La Suisse.
Et je ne savais pas qu'ils étaient protestants en Suisse. Certains pays...
Alors, pas partout, parce que la Suisse, c'est un tout petit pays complexe, mais ouais. 3/4 de la Suisse est protestante.
Ouais. Bon, bah voilà, bon, y a des banques là-bas, là, voilà, c'est QFD. Jean-Michel, démonstration facile, bonsoir. Les pays nordiques aussi. Et en fait, on voit énormément, d'ailleurs, ironiquement, les pays nordiques, tendance historiquement protestante, c'est les pays où il y a le moins d'inégalités entre les hommes et les femmes. Bref, on pourrait écrire un livre là-dessus. Mmh. Parce qu'il y a vraiment ce poids de la religion catholique dans notre historique aussi. Hein, parce qu'en fait, on a l'impression, nous, qu'on vit notre vie, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on porte en nous les atavismes du passé et qu'on porte en nous cette culture malgré nous. Et même si on ne la porte pas, elle est présente autour de nous. Donc, parler d'argent en France, c'est extrêmement tabou. D'ailleurs, il y a une expérience que tu peux faire avec tes amis qui est géniale. Demande-leur la dernière position qu'ils ont faite lorsqu'ils ont fait l'amour. Et demande-leur combien ils gagnent. Tu verras là où tu as la réponse.
J'adore.
Spoiler, tu vas plus écrire le livre du Kama Sutra que tenir le livre des comptes de tes potes. Parler d'argent, c'est plus tabou que de parler de sexe. Donc, c'est QFD. Petite démonstration rapide, mais en tout cas, plus sérieusement, parler d'argent casse le truc. Parce que ça fait pas partie de notre culture.
On pense que parler d'argent, ça veut dire se séparer, en fait. Ça veut dire que, ah, bah, on n'est plus en fusion, donc c'est plus toi et moi ensemble, c'est toi et moi séparés. Donc, ah, donc peut-être qu'on s'aime pas. Enfin, ça rejoint un peu toute cette grande idée du romantisme, du ah, bah, on est censé être un. Donc, finalement, pourquoi parler d'argent ? Parce que, puisque tout ce qui est à moi est à toi.
J'ai plus cette phrase. Non mais c'est ça, et en fait c'est oublié fondamentalement, et n'importe quel thérapeute de couple ou sexologue le dira. Un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a toi, ton ou ta partenaire, et l'identité qui est formée par ce couple. Là où le côté fusion en fait efface les individualités. Alors ça va au début, hein, mais quand ça se termine, c'est dramatique, c'est violent, Tu vois des personnes qui font qui tombent dans les affres de la dépression. Enfin, ça peut être extrêmement douloureux, en fait, de se dire qu'on s'est autant planté sur une personne.
Je vais te raconter un truc un petit peu perso qui est arrivé là très 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 récemment. Tu sais, tu me demandais ce matin, hein, si je te disais « Oh, ça va pas, machin ». Enfin, ce matin, j'étais un peu fatiguée, j'ai pas très bien dormi. Et tu me demandais un peu « Ah, qu'est-ce qu'il y a ?» et tout. Puis j'ai pas trop osé te dire.
Mais dis-moi.
J'allais pas t'en parler, mais je me dis « Bon, allez, tu sais quoi, en vrai j'incite les gens à parler à mon micro, donc si je le fais pas, bah c'est...
Je viens de révéler à la terre entière que j'étais mariée, chacun à son tour.
Oh, quel grand secret.
Ah oui.
On n'a pas parlé de ta position favorite non plus, tu sais.
J'en parlerai pas.
Oh, tu préfères parler d'argent, toi.
Ah, carrément.
T'es vraiment à contre-courant.
Faut un peu déjouer les statistiques, tu vois.
C'est vrai, t'as raison, c'est bien, c'est bien.
Alors, confie-toi.
Alors, pour tout te dire, j'ai vécu une histoire avec un mec, ok, jusque-là tout va bien. C'est quelqu'un qui m'a aidé pas mal dans le mindset de l'entrepreneur, ok. Donc voilà, parce que pour moi, tous ceux qui viennent d'arriver sur le podcast pour info, j'étais 10 ans dans le cinéma, donc intermittence. Donc quand t'es intermittent, qu'est-ce qui se passe en fait? T'es payé le salaire qu'on te dit que t'es payé, c'est des conventions, donc il n'y a pas de négociation quand tu rentres sur un projet. C'est ok, voici la grille salariale, les heures sup, elles sont payées tant, il y a plein d'heures sup qui existent où tu n'es pas payé, mais parce que t'es là pour l'art, n'est-ce pas? T'es là parce qu'on fait un métier formidable, donc pourquoi tu serais payé
Le métier passion.
Exactement, le métier passion. Et alors, donc... Problème à l'argent, problème numéro un chez moi. Je suis quand même passée d'un métier passion à un autre métier passion. Mais bon, il y a plein de trucs très cool à ça. Mais c'est vrai que quelque part, il y a des choses qui seraient, il y a des patterns, comme tu aimes dire, qui se répètent à ce niveau-là. Et donc ce mec-là, en même temps, bah, il m'aide du coup pas mal à changer mon mindset, machin. Donc ça, c'est hyper cool. Il m'a offert plein de choses de ce côté-là. Je lui ai offert aussi plein de choses sur d'autres choses. Mais bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Et lui, il aime beaucoup ce que je fais. Il aime beaucoup mon talent. Je pense que ça a été un peu un match assez platonique entre nous là-dessus, sur un côté vraiment genre niveau boulot, on s'entend trop bien, c'est hyper cool et tout. Maintenant, on se fréquente plus.
Okay.
C'est un peu tendu parce que forcément, quand tu te fréquentes plus, t'as besoin d'une cassure, tu vois, pour si on veut être amis ou quoi, il y a besoin de mettre un peu de distance. Il m'a quand même proposé qu'on bosse ensemble. Donc, à la fois, c'est hyper cool parce que ouais, c'est vrai qu'on s'entend trop bien, on avait une super complicité amicale, donc ça, on essaye de le garder malgré les autres circonstances. Il me propose qu'on taffe ensemble, il me propose un tarif qui est assez. Qui est décent. Ça vaut ce que ça vaut. Et puis là, justement, pour une fois, j'essaie aussi de. Comme lui, il m'a toujours dit, arrête de baisser ta culotte, tu vois, parce qu'il voit bien que j'ai tendance à me sous-évaluer. Donc, c'est un truc qui revient souvent chez lui dans son discours. Il me dit, non, mais c'est bon, là, genre, avec telle personne, c'est quoi cette négo de merde? Genre, arrête de baisser ta culotte, genre, c'est bon, affiche tes prix, etc. Et du coup, avec lui, j'essaie de tenir ce discours-là. Je me dis, en même temps, c'est lui qui m'a appris ça, donc il pourrait être, enfin, je pense qu'il va être fier de moi, tu vois, de voir que justement, ok, là, j'affiche un tarif, je lui envoie un devis, je lui demande de me payer la compte. Ok, quoi, tu vois, je suis en mode. Puis pour moi, c'est hyper serein de me faire payer un peu la compte avant, parce que je sais que du coup, le projet va vraiment se faire, que j'ai un peu de fonds pour lancer les démarches, rentabiliser mon temps, etc. Et là, il le prend super mal que je lui demande la compte. Et je me dis, mais c'est fou. Enfin, genre, pourquoi? Et il m'a dit, je le prends comme un manque de respect. Pour tous les services que je t'ai rendus, etc. Sur Colette se confesse. Et je suis là, c'est vrai que t'as pris un peu de temps avec moi pour m'apprendre des choses et tout. Et ça, c'est hyper cool. Mais là, ça n'a rien à voir. Déjà, de un... Moi, j'ai besoin de cet argent. Toi, t'en as un peu moins besoin. Donc, c'est quoi ton problème, en vrai? Genre, parce que je pense pas que ce soit vraiment ça le frein. Deux, non, c'est pas du tout un manque de respect. C'est juste que, moi, j'essaye d'avancer. Enfin, c'est ma manière de faire les choses. Et du coup, je sais pas trop comment vivre ce truc. Voilà, pour être tout à fait honnête avec toi.
Alors ça, on est dans le stéréotype du prince charmant qui est venu sauver sa princesse et qui voudrait que tu lui sois éternellement reconnaissante. Non.
Bam.
Non, mais ça va. De un, quand vous étiez ensemble, c'était pas ton conseiller en gestion de patrimoine. Donc tu ne te devais rien. Non, mais vraiment.
J'adore.
Non, mais alors je suis désolée, je suis un peu cash. Hein.
Mais non, mais, mais moi j'adore le cash. Vas-y. Enfin, non, enfin, j'adore que tu sois cash, mais je commence à aimer le cash.
C'est bien. Voilà, restons dans le cash. Non, mais en fait, ça en dit long sur la perception qu'il a de votre relation, où il se voit comme le prince charmant qui est venu réveiller sa princesse dans sa tour, qui était endormie, ou accessoirement, Disney ne parle pas de la question du consentement, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et en fait, il voudrait que tu lui sois éternellement reconnaissante. Mais comme tu l'as dit, votre relation, vous vous êtes apporté mutuellement des choses. Donc, il faut qu'il arrête de mettre de l'ego là-dedans. Et pour les services rendus, on pourrait être très, très trash, et on pourrait parler de sexo aussi, hein. Enfin, je trouve que c'est indécent, en fait, d'utiliser ces termes-là en disant « Attends, on était ensemble, on avait une relation de couple, ou peu importe la nature de votre relation, en tout cas, on avait une relation. Le principe d'une relation, c'est du partage, de l'échange. J'imagine que tu... Enfin, il l'a fait gentiment, il l'a fait parce qu'il a voulu t'aider, il a voulu t'élever sur ces questions-là, ou en tout cas, il a voulu t'apporter une conscience ou quelque chose. Il l'a fait. Bon, bah là, en fait, on parle d'une relation de travail à travail. » Tu lui demandes un acompte, j'imagine que c'est une pratique courante dans le métier.
Oui, bah c'est les 20% d'acompte sur un devis, comme tout le monde connaît, quoi.
Bon, très bien, donc en fait, il n'y a rien qui choque.
Bah, je pense pas, non.
Enfin... Bah non, en fait. Donc en fait, c'est lui et son ego d'homme, et... mon Dieu. On va dire, c'est lui et son ego et sa vision qu'il a de lui-même de prince charmant. En fait, il faut qu'il redescende.
Mmh. Donc ouais, c'est de l'ego mal placé, en fait.
C'est de l'ego mal placé.
Ouais.
Et puis, le fait qu'il te fasse, mine de rien, faire du chantage affectif... en te disant, après tout ce que j'ai fait pour toi, enfin, il t'a pas ramassé dans la rue, t'étais pas SDF, et quand bien même c'était le cas, en fait. Une relation, c'est le principe de partager, tu vois, il compte.
Mmh.
On en parlait au début.
Oui.
Il est en train de compter. En fait, il estime que vu qu'il t'a apporté ça, mais encore une fois, c'était pas ton conseiller financier. Il y avait pas de relation professionnelle. Donc, en fait, il a fait les choses parce qu'il avait envie de les faire à l'instant T. Tu l'as pas forcé. Là, par contre, on est dans une relation professionnelle, c'est tarifé. Donc, on discute d'argent. Et ça lui plaît pas parce qu'en fait, il a encore cette espèce de prisme de « j'ai tout fait pour elle ». Non, mais calme-toi, en fait. Hein. Tu n'as pas sauvé le monde. Enfin, il t'a aidé, mais il a pas soigné le cancer. Hein. Donc, on descend. On descend, pépère. Donc, si tu m'entends, on va discuter. Est-ce que t'en penses quoi ? Ça te parle ?
Ouais, ça me parle carrément. Ce qui me... Là où je suis un peu en dissonance, c'est que je me dis, bah, comment quelqu'un qui te conseille tellement en te disant, bah, arrête de baisser ta culotte, tu vois, genre, bon, pour moi, c'était le genre de terme qu'il me disait, parce que bon, c'était notre humour à nous aussi.
On ne juge pas.
Mais voilà, merci. Mais comment derrière, du coup, il peut s'attendre à ce que je fasse, du coup, cette même erreur avec lui, et au contraire, enfin, moi, j'aurais kiffé que ça lui fasse plaisir justement de voir que ok, là je m'affirme, que je fais un pas en avant, que maintenant je travaille différemment et que désormais ça va être comme ça avec tous mes clients et que c'est trop cool.
Parce qu'il est dans ce qu'on appelle en psychologie dans un faux self.
Qu'est-ce que c'est ?
Le faux self, en fait, c'est l'image que tu as de toi, que tu aimes te dire que tu as, mais que tu n'as pas vraiment. Pour reprendre ton terme, c'est une dissonance entre ce que tu penses que tu es et la réalité. Lui, il se voit comme étant le prince charmant. Et donc, en fait, première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que lorsqu'il t'a donné ses conseils, il le faisait à 100% pour t'aider, ou il y a une part de son ego qui venait être nourrie par l'idée de te, entre guillemets, sauver ?
Faudrait lui poser la question. Je voudrais pas parler à sa place.
Tu vois, non, mais c'est intéressant. Et donc là, en fait, effectivement, tu as une relation professionnelle avec lui. En fait, pourquoi il vient remettre de l'affectif dedans ? Parce qu'en fait, ça vient toucher son ego. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu des doutes sur la totale empathie qu'il a eue. J'imagine qu'effectivement, il l'a fait de bon cœur quand il t'a aidé, quand vous étiez ensemble. Mais il y a quelque chose qui venait peut-être le nourrir chez lui, le rassurer, nourrir son ego. Et donc, en fait, il est dans un faux self, dans le sens où, comme tu dis, il y a une dissonance entre ce qu'il t'a conseillé et finalement la réalité. Parce que ça vient toucher quelque chose chez lui.
Après, est-ce qu'on ne fait pas tous un petit peu ça aussi ? Quand on aide quelqu'un, c'est parce que ça nous fait du bien ?
Bien sûr.
Mais il y a certaines limites.
Il y a certaines limites. Et puis, encore une fois, là, tu n'abuses pas. Tu lui demandes 20%.
Oui.
Et quand je te posais la question, est-ce que c'était des pratiques, que je ne connais pas du tout comment ça se passe dans ton métier, quand je te demandais si c'était une pratique courante, tu m'as dit oui. Donc en fait, il n'y a rien de choquant. C'est pas comme si tu l'avais demandé 50%. T'aurais pu. Hein. Quitte à y aller, autant y aller à fond. Non, mais moi, je pense qu'il y a vraiment, de ton côté, Colette, il n'y a rien à te reprocher.
Et comment tu conseillerais sur comment gérer ce truc ? Faut juste rester sur ses gardes, et puis, enfin, juste rester sur ses positions, et puis...
Alors, je vais t'apprendre une technique que mes années à Londres, tu m'excuses, on va choquer peut-être tes auditeurs et auditrices, ça s'appelle The Shit Sandwich, que tu connais peut-être.
Non, pas du tout.
Tu connais pas ?
Ah non, mais j'adore. J'adore déjà.
C'est la négociation à l'anglaise, qui est très pratique pour tous les sujets de négociation, et tu te rends compte que les anglo-saxons l'utilisent de façon totalement abusive. En fait, The Shit Sandwich, c'est... positif, négatif, positif. Quand tu as un message difficile à faire passer et que tu n'as pas les ovaires pour vraiment y aller frontalement parce que tu as peur, il y a quoi que ce soit, bref, il y a quelque chose qui fait que tu ne te sens pas à l'aise pour le faire à 200%, en fait, c'est d'enrober ton message par deux messages positifs. En ton cas, ça pourrait être « écoute bidule », je trouve ça...
le premier prénom qui t'est venu en tête.
Bon, tout à fait. écoute bidule, je trouve ça, même si tu le penses pas, on s'en fout, faut flatter, hein, tu sais. Je trouve ça super que t'aies pensé à moi. Mais comme tu me l'as conseillé, j'ai décidé de mettre en place des pratiques pour me respecter, pour respecter mon travail. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai proposé ça. Là, on est dans la partie shit. Tu vois. Et après, repositif, mais en tout cas, encore une fois, ne crois pas que, au contraire, ce que tu m'as appris, ça m'a vachement nourri, et preuve en est, je suis en train de le mettre en exercice maintenant.
C'est tellement anglo-saxon, en effet.
Of non, course.
Là, je suis en train de me refaire toutes les conversations avec des anglo-saxons.
C'est que ça.
C'est que ça.
C'est que ça. C'est positif, négatif, positif. Ça s'appelle The Shit Sandwich.
Ah, mais donc ça a un nom, quoi.
Ouais, bien sûr, mais tu sais que cette technique-là, quand je suis avec des personnes en consultation et qu'elles ont des messages à faire passer à leur partenaire, je leur conseille de l'utiliser.
Carrément.
Plus une autre technique, bien sûr, c'est de ne jamais utiliser le tu. Tu sais, on dit qu'en sexo ou en thérapie de couple, le tu, tu. Oui. Parce qu'en fait, quand tu communiques avec l'autre et que tu dis tu, l'autre va se concentrer non pas sur le fond, mais sur la forme. En fait, la personne va vouloir se défendre.
Oui.
Par contre, si tu dis je, on peut pas nier un ressenti. Ou alors les gens qui le font sont antipathiques.
C'est relié à la communication non violente.
Mais tout à fait. Et donc, en fait, quand tu vas utiliser ta technique du shit sandwich, si tu rajoutes du je, en disant écoute, je travaille beaucoup, j'ai mis ça en place, c'est pour le développement de mon activité, de mon entreprise, etc. J'imagine que tu peux comprendre. Et après, tu repasses sur le côté positif. Après, voilà, je suis totalement reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi, etc. Comme ça, son ego est flatté, mais tu t'es affirmée.
Très bien. Bah, merci beaucoup, je te tiendrai au courant.
Mais bien sûr, tu me diras ce qu'il en est.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.